Ce n'est pas toujours facile de savoir ce qu'il faut apporter. Alors on le demande au Seigneur, on dit « Seigneur, montre-moi ce dont ont besoin ceux qui seront là ». J'espère qu'il a répondu. Je pense que c'est sa volonté. En me faisant penser qu'il est une prédication, un sujet qui est de moins en moins abordé et qui représente un enseignement de plus en plus, hélas, abandonné même par les églises évangéliques. Je lui donne comme titre « Que ton règne vienne ». On pourrait aussi le traduire « Que ta royauté vienne ». Alors je sais bien entendu, puisque je vous suis par le Zoom la plupart du temps, que notre pasteur, Élie, vous enseigne sur la prière dite dominicale, le Notre Père. Alors je ne vais pas interférer avec ce qu'il a pu vous dire, et que j'ai entendu d'ailleurs, mais comme introduction à ce que j'ai à vous apporter, je ferai une question. Quand nous prions, s'il nous arrive de prier, parce que depuis très longtemps, les églises évangéliques n'utilisaient pas le Notre Père. Il y a quelques bonnes raisons pour cela. La première, c'est qu'elle ne concerne pas notre époque, ni l'Église, mais le peuple juif. Mais peu importe, il est très bien de la dire, parce que ce qui concerne Israël nous concerne aussi, même si c'est un peu moins directement. Ma question, c'est, quand nous prononçons « Que ton règne vienne », quel sens donnons-nous au mot « règne » que l'on peut traduire aussi « royauté »,« que ta royauté vienne ». Et cela me semble un peu plus juste à cause du sujet que je veux traiter avec vous de toute façon. Qu'est-ce que nous mettons derrière la prière « que ton règne vienne » ? Eh bien, je pense que d'une façon générale, maintenant, on a interféré dans le sens premier et on considère le règne de Jésus dans nos cœurs de façon individuelle. Très bien, il nous faut aussi prier pour cela. Mais est-ce vraiment le sens premier de la prière « que ton règne vienne », cette prière que Dieu demandait à ses disciples, aux apôtres, qui étaient tous juifs, qu'il leur demandait de chercher, c'est dans le même contexte qu'on a là, le fameux verset bien connu et souvent chanté, « Cherchez le royaume de Dieu et sa justice bon, », vous savez, mieux que moi, ou en tout cas aussi bien. Quel sens donnons-nous au royaume ? Est-ce vraiment uniquement le règne de Dieu dans notre cœur ? Je viens de le rappeler, les apôtres étaient les apôtres juifs, les apôtres de la circoncision. C'est à eux qu'il a proposé cette prière. Elle concernait un peuple. C'est pourquoi Jésus ne leur a pas dit, quand vous priez, dites « Seigneur mon Dieu, dans la solitude, je te prie ». Non, c'est notre Père. Notre montre qu'il s'agit d'une prière globale, que cet ensemble que l'on prions, et l'on peut dire, c'est très juste, que cela nous concerne aussi si nous l'employons, puisque nous sommes membres d'un même corps. C'est normal que nous disons notre, au culte, mais pas dans la prière quand nous sommes isolés. Là, c'est une communion personnelle avec le Père que nous exprimons dans la prière, vous l'avez compris. Bref, si nous voulons bien comprendre ce qu'est le sens de la prière que proposait Jésus aux siens, il nous faut nous rendre compte que c'est une prière juive qui concerne l'attente déjà séculaire du peuple d'Israël lorsqu'elle leur est proposée. Qu'est-ce qu'ils attendaient? Eh bien, l'évangile de Luc nous rappelle, nous montre que Anne, par exemple, après la révélation, la reconnaissance du bébé comme étant le Messie par Siméon, que Anne parlait de Jésus à ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Vous connaissez ce texte, je n'ai pas besoin, on n'a pas besoin de l'afficher, bien entendu. Oui, il y avait une attente messianique profonde à l'époque où Jésus nous est apparu et a commencé son ministère. De quoi s'agissait-il donc? Nous allons remonter un peu en arrière et nous souvenir que dès le début de l'humanité adamique, en tout cas, adamite, je ne sais pas si on dit adamique ou adamite, mais de toute façon les deux sont bons. Nous savons qu'au début, dans le jugement qui est prononcé par Dieu contre le serpent, c'est-à-dire le brillant, pour être plus direct dans la traduction, c'est-à-dire celui qui se présente en ange de lumière pour tromper Adam et Ève, en lui prononçant son jugement, Dieu a fait une promesse. Vous vous souvenez? Elle t'écrasera la tête. Tu lui briseras le talon. Mais c'est sur cette promesse de la postérité de Ève. C'est pas tu, c'est ta postérité, mais à travers toi, c'est cette promesse qui depuis le début est attendue comme la promesse d'un établissement de Dieu lui-même, vainqueur de Lucifer sur notre terre. Mais cette promesse reste plus ou moins cachée et non comprise, j'imagine, pendant des siècles, jusqu'à ce que Dieu se présente à Abraham. Abraham, fils de Seth, fils de Noé, et père du peuple d'Israël. Et Dieu se présente à Abraham et lui fait la première promesse qui se trouve en Genèse. Oui, c'est vrai, il ne faut plus mettre Genèse 3, qui se trouve en Genèse 12, versets 1 à 3. Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Dieu lui demande de s'en aller. Il a fallu du courage. Pourquoi? Parce que Abraham était implanté dans une des villes qui sans doute était parmi les plus prospères, sinon la plus prospère du monde d'alors. Il était à Our en Chaldée. Et Our est une ville dont nous savons quand même pas mal de choses à travers les vestiges archéologiques. Il y avait là une bibliothèque avec des milliers de manuscrits, ou plutôt d'éléments cunéiformes, puisque on écrivait sur de l'argile à l'époque avec des coins. Pourquoi ça s'appelle cunéiforme? Mais il y avait des milliers d'ouvrages, ce qu'on n'a pas vu dans aucune région de l'époque, dans les vestiges d'aucune autre ville que Our. On sait que à Our, les maisons étaient chauffées par chauffage central. On n'a rien inventé, n'est-ce pas? Alors, voilà que Dieu lui dit, tu t'en vas, tu quittes Our, va-t'en. Va-t'en, non seulement de Our, mais de ta famille, la maison de ton père. Et va dans le pays que je te montrerai. Donc il fallait quitter la civilisation, une ville où il était bien implanté, et s'en aller où? Il ne savait pas. De plus, il fallait qu'il parte avec ses tout proches, et c'était seulement sa femme, et quitter sa famille. Il allait obéir, mais je le répète, ce n'était pas simple. Il fallait du courage, partir pour l'inconnu, et de la foi. Celui qui me parle, je peux lui faire confiance. S'il me le demande, il a ses raisons. Il n'a pas obéi d'une façon directe et totale d'un coup. Non. Il a obéi par étapes. Il est d'abord parti, mais avec sa famille. Ils se sont arrêtés à Charan. Il n'est pas arrivé, mais ils se sont arrêtés à Charan. C'est pas la même chose que Our. Un petit bled, c'était un petit bled perdu. Bref, mais ils se sont installés. Et il a attendu que son père soit mort. Enfin, je dirais, c'est son père. C'est Dieu qui a attendu que son père soit mort pour revenir parler à Abraham et lui dire, va-t'en, c'est pas fini, tu n'as pas encore réalisé tout mon projet, va-t'en, pars dans le pays que je vais te montrer. Et Abraham part, mais il ne se sépare pas encore tout à fait de la maison de son père, puisqu'il permet à Lot et aux siens de le suivre. C'est une deuxième étape, mais c'est pas encore tout à fait la dernière. J'arrête, je ne vais pas m'arrêter sur tous les détails de la vie d'Abraham. Vous avez tout dans le livre de la Genèse et vous les connaissez. Il a fallu l'Égypte, il a fallu pas mal de problèmes pour qu'enfin il se sépare de Lot. Il lui dit, choisis. Tu choisis la plaine, j'assais sur la montagne, tu choisis la montagne, j'ai dans la plaine. Et c'est alors, chapitre 13, cette fois, que Dieu s'adresse de nouveau à lui. Donc, chapitre 13, verset 14 et suivant, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde, vers le nord, et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » Alors j'ai encore une question à poser. J'aime bien poser des questions parce que c'est comme ça qu'on invite les gens à réfléchir. N'est-ce pas? C'est la meilleure façon de faire de la pédagogie. À qui Dieu a-t-il promis le pays? Regarde à droite, regarde à gauche, regarde en face, regarde derrière toi. Tout ça, tout le pays que tu vois, je vais te le donner à toi et ta postérité. À qui l'a-t-il promis? Je viens de le redire. J'espère que cette fois vous l'avez compris. À sa postérité? Oui, c'est tout. Non, à toi et à ta postérité. Tout ce que tu as vu, je te le donnerai. Alors, une nouvelle question. Est-ce qu'Abraham l'a eu, ce pays? La postérité, on dira, ben oui, la postérité, elle va habiter Israël, elle aura ce qu'Abraham avait vu. Mais oui, mais Abraham, C'est assez marrant. Lui, il n'a eu que des trous. Enfin, c'est une façon de parler. Excusez-moi. Il y a acheté une caverne. Une caverne, c'est un trou, non? Et il a bâti des puits, des trous. Qu'est-ce qu'il a eu d'autre? Le petit bout de terrain à côté du tombeau et peut-être les alentours des puits. Mais il n'a jamais possédé le pays. Abraham n'a jamais eu le fruit de la promesse. Alors, qu'est-ce qu'il faut conclure? Est-ce que Dieu l'a promis, oui ou non? Et comment l'a-t-il promis? Comment l'a-t-il promis? Là, c'est amusant, enfin amusant, intéressant, parce qu'on oublie souvent de le rappeler. Dieu le lui a juré. Il l'a prononcé avec serment. Versets 16 à 18. C'est l'ange de l'Éternel qui parle à Abraham alors qu'il a été mis à l'épreuve, et c'est au chapitre 22, et qu'il a obéi, prêt à abandonner, à sacrifier celui par lequel devait venir la promesse. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi et en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Et je voudrais citer aussi Ézéchiel 47:14. Car j'ai juré, dit Dieu, j'ai juré la main levée de te donner, de le donner le pays. Il s'agit du pays à vos pères. Ce pays vous tombera donc en partage. Parce que je l'ai juré la main levée. N'a peut-être pas constaté, donc il faut le faire souligner, que Dieu l'a juré de trois manières différentes. Il dit, je le jure par moi-même. Et Hébreu, verset 6, dira, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jurera par lui-même. Parce que d'habitude, ben on jure par un plus grand, enfin, ou en tout cas, on jurait. Mais Paul, non, Jacques nous a invités à ne pas jurer du tout, mais ça c'est une autre histoire. Mais à l'époque, c'était une façon solennelle de parler. Donc il dit, je le jure par moi-même. Et puis, vous avez peut-être entendu des enfants jouer et puis essayer de se convaincre qu'ils disent la vérité. Comment ils font? Il dit, parole. Bien Dieu l'a fait aussi. Il dit, parole de l'Éternel. C'est la deuxième façon de faire un serment. Et il y a une troisième, la main levée. Comme au tribunal, on fait la main sur un livre qui est la Bible. Enfin, on faisait, je sais pas, j'ai l'impression qu'on ne le fait plus depuis déjà longtemps, mais bref, c'est une façon de jurer. Et Dieu a juré de trois manières différentes la promesse qu'il faisait à Abraham et à sa postérité. Mais je reviens, Abraham l'a-t-il eu, le fruit de la promesse? Est-ce que la promesse s'est accomplie pour Abraham? Non. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut conclure? J'espère que vous avez la bonne réponse. Ça va se faire. Ça ne s'est pas encore fait, mais ça se fera. Pourquoi? Parce que nous avons un Dieu qui ne peut pas jurer et ne peut accomplir ce qu'il a juré. C'est impensable. Dieu n'est pas un homme pour mentir, pour tromper ou pour ne pas garder sa fidélité. Et qu'il le fera. La preuve se trouve donnée un nombre innombrable de fois dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau. Mais dans l'Ancien d'abord, puisque nous y sommes. Il y aurait une multitude de textes à montrer. Mais avant de souligner ces textes importants, je voudrais dire que c'est aller plus loin. La promesse d'Abraham a été répétée à Jacob, à Isaac, puis à Jacob. Et savez-vous combien de fois la Bible rapporte que Dieu les a jurés? Je dis qu'il les a jurés, oui. J'ai lu deux textes, n'en ai lu que deux. Mais combien de fois est-il dit dans la Bible que Dieu l'a juré? 51 fois. C'est pas rien. Est-ce que Dieu va vraiment abandonner un serment qui est rappelé 51 fois dans notre Bible? Si c'est pas le cas, si la promesse c'était les trous que Abraham a pu s'acheter ou se fabriquer, enfin, creuser, on dit pas fabriquer pour un puits, ben, alors Dieu n'est pas très sérieux. Si c'est ça, la promesse. Bon, pour le peuple, tout le monde est d'accord qu'il l'a eu. Il l'a eu. Mais jamais dans les limites qu'au chapitre 15 de la Genèse, Dieu avait donné à ce peuple qu'il promettait. Il n'est jamais allé jusque-là. Presque du temps de Salomon, c'est tout. Mais il l'a eu, le peuple. Dieu l'a eu à quelques, peut-être quelques centaines de kilomètres près. On ne va pas chinoiser. Mais il n'est pas question de quelques kilomètres. Est-ce que il l'a eu sans fin? Il devait l'avoir, et là vient une troisième promesse, c'est la promesse faite à David. Il n'y a pas d'avoir choisi Abraham, Isaac, Jacob, il a choisi la tribu de Juda. Et dans la tribu de Juda, il a choisi la famille de David. Et on connaît le verset, je crois que ça je l'ai mis pour qu'on le cite, Amos 9, 11. « En ce temps-là, dit Dieu, à propos de David, qui a été roi, ça vous savez, je relèverai de sa chute la maison de David, j'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois. » Et Ézéchiel 34, 23 dit, « Moi l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. » Il faudrait aussi citer les textes qui disent que le règne de David sera éternel. Le mot éternel n'est pas dans la Bible, j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici, mais c'est un mot qui veut dire en permanence. Alors, en permanence relative, suivant les cas, suivant les versets, mais c'est promis au règne de David. Et David s'en est émerveillé, puisque, je ne sais plus dans quel verset, où ça nous est dit, je n'ai pas dû le mettre sur la liste des versets affichés. Mais il dit, tu es un Dieu merveilleux, non seulement tu m'as choisi, mais tu me fais des promesses pour ma postérité. Vous connaissez sans doute ce verset d'ailleurs. Qu'est-ce qui a été vrai? Qu'est-ce qui n'est pas encore accompli? Eh bien, c'est l'établissement de façon durable du règne de David. Dans un pays promis, et promis non pas seulement à sa postérité, au peuple juif, mais à Abraham, personnellement. Vous l'avez entendu. J'espère que vous l'avez compris. Autrement dit, il s'agit d'un royaume qui sera établi après la résurrection ou au moment de la résurrection d'Abraham. Jésus n'a-t-il pas dit à propos du royaume à venir qui était la prédication des évangiles? N'oublions pas que c'était ça, la prédication de Jésus-Christ, de Jean-Baptiste d'abord, de Jésus-Christ, le royaume des cieux, ou la royauté qui vient des cieux, et non pas le royaume dans les cieux. Là, le royaume est proche, repentez-vous. Pour que ce royaume vienne, pour que la promesse soit établie, il faut d'abord la résurrection d'Abraham, la résurrection de David, parce que c'est David qui sera le prince de ce royaume à venir. Dieu, Jésus-Christ, Dieu dans sa manifestation temporelle, donc Jésus-Christ. Jésus-Christ sera le roi, c'est vrai, mais les textes nous disent que jusqu'à ce que ses ennemis soient mis sous ses pieds, le Christ sera assis à la droite de Dieu. Donc il ne sera pas sur la planète. Il vient et il établira son règne, mais il laissera en gérant un prince, David, ressuscité. J'ai eu des amis qui sont venus de Pyrénées, 3 jours chez moi cette semaine, et on a beaucoup parlé. À un moment donné, j'ai dit, n'avez-vous pas compris que c'est David qui va régner pendant le millénium? Oh, David? Mais oui. Alors, j'ai pris les textes et je leur ai montré. Alors, j'en ai repris 2 pour vous ce matin. Amos 9, 11. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Ça, c'est pour Amos. Ézéchiel 34, 23. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Donc, le Christ sera le véritable roi, celui qui règne, mais depuis les cieux, à la droite de Dieu, et c'est David sur notre terre qui sera le prince, c'est-à-dire le gérant, qui de la part de Dieu exercera la royauté, le règne. Que ton règne, que ta royauté vienne. C'est la prière. Pourquoi un pays, une nation, en royaume? Et pourquoi les Juifs? Pourquoi les Juifs, Israël? Les Juifs, depuis toujours, ont été méprisés et haïs et persécutés parce que Dieu les a choisis. Et pourquoi il n'a pas choisi les Français? Pourquoi pas après tout? Est-ce que nous sommes pires qu'eux? Mais est-ce qu'Israël est pire que nous? Dieu a choisi Israël parce qu'il l'aimait. C'est ce que dit la Bible. Tenez, Deutéronome 7, 7-8, j'ai peut-être sauté une référence, mais ne vous inquiétez pas si ça ne trouble pas pour celui qui nous fait le service du travail de mettre sur le tableau. Ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre tous les peuples, il aurait pu dire, ni en qualité, que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais c'est parce que l'Éternel vous aime. Parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait paix, qu'il avait fait à leur père. Il lui a fait un serment à Abraham. Il aimait Abraham, oui. Abraham est appelé son ami. Et ses promesses englobent sa postérité. Il aime sa postérité parce qu'il aime Abraham et il accomplit son dessein par amour pour eux, pour tenir ses promesses. Mais quel est le but pour lequel maintenant le peuple d'Israël a été choisi? Il l'aimait, très bien, mais qu'est-ce qu'il voulait faire avec lui? On le trouve au livre de l'Exode, au chapitre 19, et les versets 5 et 6 nous le résument à leur manière. Maintenant, dit-il, il parle à travers Moïse. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Et il y a plusieurs textes qui disent que Israël est son héritage, sa possession. Car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Maintenant, quand on lit Pierre, aujourd'hui, je n'avais pas prévu de vous le dire, mais je crois que c'est utile de le dire. On voit que il est question d'une nation sainte et on applique ça à l'Église. Depuis quand l'Église est-elle une nation? Non. Et à qui s'adresse l'apôtre Pierre? Aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Eux sont une nation sainte. Oui, pas l'Église. Je le dis en passant parce que nous avons l'habitude, et ce n'est qu'en moitié vrai, d'appliquer à l'Église ce qui est dit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau, parce que aussi dans le Nouveau, bien des textes sont concerne Israël et pas directement nous, on a l'habitude de nous les approprier. On en a cité un exemple ce matin en chantant « Quand les collines s'éloignaient que les montagnes ». Bon, vous avez, on a chanté ça et je l'ai souvent chanté aussi. C'est un très beau chant. On ne peut pas dire ça de tout ce qu'on chante aujourd'hui. Mais bon, oui, on peut l'appliquer, mais on oublie que c'est à Israël que Dieu l'a dit. Parce qu'il faut absolument oublier qu'Israël est le peuple élu. Si on affirme, c'est la théologie moderne, qu'il n'y a pas d'avenir national pour Israël, et que Israël ayant rejeté son Messie, il n'y a pas d'avenir pour lui, c'est terminé, Dieu l'a abandonné. C'est une théorie qui a pris corps au IIe siècle, que les réformés ont quand même en partie repris, abandonné, et qu'on est en train de reprendre. L'Église a remplacé Israël. Vous ne trouverez pas ça dans l'Écriture, c'est un enseignement intentionnel de l'ennemi de Dieu, qui est l'ennemi du peuple d'Israël, parce que c'est son peuple, celui de Dieu. Bref, nous chantons ça très bien. Pourquoi? Mais parce que la grâce de Dieu, promise à Israël, avec l'accomplissement terrestre que ça implique, une prospérité, une restauration, une nation, un royaume, celui de David, etc., parce que tout cela, c'est d'abord Israël que ça concerne. Mais, par son trébuchement, cela fait de nous les bénéficiaires aussi. Mais encore, quand il écrit Romains, l'apôtre Paul disait aux Juifs d'abord, puis aux Grecs. Et plus tard, il dira, il est vrai, il n'y a plus ni juif ni grec. Mais n'empêche que ce sont eux qui étaient les premiers et qui restent les premiers destinataires des promesses faites par Dieu avec serment. Je ne voudrais pas oublier quelque chose d'important, c'est pourquoi je regarde quand même les quelques notes que j'ai, et j'ai les textes pour ne pas courir à droite et à gauche dans mon mobile, je les ai imprimés pour moi. C'est comme ça que vous ne me voyez pas tourner les pages de la Bible, mais elles ont été tournées avant. Pourquoi un pays, une nation, un royaume, et je dis, nous avons vu que Dieu avait choisi Israël pour en faire une nation ou un peuple de rois, une nation de sacrificateurs. Donc, Israël a été choisi pour être une nation de rois, c'est une nation royale, pour le traduire autrement, et pour être une nation, un peuple de sacrificateurs. Et Joël nous apprendra plus tard, le livre de Joël, qu'il sera aussi, qu'il est destiné aussi à être un peuple de prophètes. Joël dit, tous prophétiseront, du plus petit au plus grand. Ça, c'est moi qui le dis. Il dit, même les serviteurs et les servantes, c'est-à-dire les gens les plus humbles de la nation, tous prophétiseront, vos jeunes gens, vos jeunes filles, vos vieillards, tout le monde prophétisera. Tout le peuple d'Israël sera un peuple de prophètes. Donc Dieu a choisi Israël pour en faire un peuple de rois, pour le soumettre la royauté, un peuple de sacrificateurs et un peuple de prêtres, mais on n'est pas roi pour soi, on est roi d'autres, non? Sinon ça n'a pas de sens. Oui, si, il y a bien un roi de la mythologie qui était roi tout seul, mais bon, bref, on n'est pas roi tout seul, et on n'est pas sacrificateur pour soi. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui intervient de la part de Dieu pour les autres, et on n'est pas prophète pour soi. Un prophète est destiné à apporter la parole aux autres, et c'est cela le rôle de la nation d'Israël. Être roi, sacrificateur et prophète pour le monde entier. Le but, c'était, et c'est encore l'objectif, le but dernier de Dieu, de faire, à travers ce rôle de roi, sacrificateur et prophète, le rôle de bénédiction pour la terre entière. Je pense que beaucoup de Juifs aujourd'hui en sont conscients. Seulement, ils n'ont pas compris qu'ils ne pourront pas être utiles tant qu'ils ne se sont pas convertis, tant qu'ils n'ont pas reconnu leur Messie, tant qu'ils ne l'auront pas accueilli. Et la prophétie, vous le savez sans doute déjà, nous annonce que quand ils seront dans la détresse la plus grande, entourés des ennemis, en danger de disparaître, Dieu viendra les délivrer. Et que c'est alors qu'ils le verront et qu'ils pleureront la repentance et qu'ils se convertiront. Mais ce sera pour devenir enfin, dans un royaume établi, les missionnaires pour le monde entier. C'est leur rôle, mes amis. Ça ne veut pas dire que nous ne devions pas le faire, mais c'est d'abord leur rôle. Seulement, Dieu, dans sa grâce, a permis que, malgré tout, nous soyons au bénéfice même de leur incrédulité. Nous y reviendrons dans un moment. Mais on me dira, oui, mais tout ça, est-ce que vraiment on peut penser que Dieu a pardonné leurs multiples révoltes, leurs multiples iniquités, leurs péchés, et surtout leur rejet du Messie? Est-ce qu'ils n'ont pas été mis de côté? Est-ce qu'il y a vraiment un retour d'Israël? Et là encore, il y a quelques textes très importants que je voudrais citer. Ézéchiel, chapitre 20. Là, c'est un peu long, le texte, mais vous me le pardonnerez, c'est important. Versets 40 à 44. Car sur ma montagne sainte, sur la haute montagne d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, là, toute la maison d'Israël, tous ceux qui seront dans le pays, me serviront. Là, je les recevrai favorablement. Je rechercherai vos offrandes, les prémices de vos dons et tout ce que vous me consacrerez. Je vous recevrai comme un parfum d'une agréable odeur quand je vous aurai fait sortir du milieu des peuples et rassembler des pays où vous êtes dispersés. Et je serai sanctifié par vous aux yeux des nations. Écoutez la suite. Et vous saurez que je suis l'Éternel quand je vous aurai ramené dans le pays d'Israël, dans le pays que j'avais juré de donner à vos pères. Là, vous vous souviendrez de votre conduite et de toutes vos actions par lesquelles vous vous êtes souillés, vous prendrez en dégoût à cause de toutes les infamies que vous aurez commises et vous saurez que je suis l'Éternel quand j'agirai par égard pour mon nom et me demande après votre conduite mauvaise et vos actions corrompues aux maisons d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Les promesses s'accompliront. Non pas parce qu'Israël serait devenu un peuple saint d'un coup, non. Il les ramènera parce qu'il l'a promis. Et c'est quand il les aura ramenés et qu'ils le verront, qu'ils changeront de conduite parce qu'ils se convertiront. Si nous prions que ton nom soit sanctifié, nous invitons Dieu à tenir ses promesses, parce que c'est à cause de la gloire de son nom et pour la gloire de son nom qu'il tient ses promesses. C'est lié. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et un peu plus loin, sur la terre, comme au ciel. Ça concerne notre planète. Alors une prédication, et heureusement, et je bénis Dieu pour cela, notre pasteur Élie le sait, et il n'est pas de ceux qui oublient ces choses. Mais je crois qu'il est bon que vous entendiez plusieurs voix et que vous sachiez que tous ne sont pas tombés dans cette révolte contre Dieu que représente la négation de son retour pour instaurer son règne sur la terre et pour donner à Israël converti le rôle pour lequel il l'a choisi et pour lequel d'avance il l'aime. Jérémie 31, 33 et 34 va répondre à une nouvelle question. Comment Dieu va-t-il bénir les nations et transformer son peuple pour qu'ils deviennent effectivement ce qu'il a prévu pour eux, un peuple de rois, de sacrificateurs et de prophètes. Jérémie 31, 33 et 34. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain ni celui-là son frère en disant « Connaissez l'Éternel » car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, et je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ne dites pas qu'il n'y aura pas de règne millénial, il n'y aura pas d'homme sur la terre parce qu'Israël a péché. Dieu dit, j'établirai une alliance nouvelle. Avec qui? Avec eux. Pourquoi est-elle nouvelle? Parce qu'ils ont eu l'ancienne. Là aussi, laissez-moi, m'en voulez pas si j'en profite pour ouvrir une parenthèse. Nous avons l'habitude de dire l'ancienne alliance c'est pour les Juifs et la nouvelle alliance c'est pour nous. C'est pas du tout biblique. Il faut nous corriger parce que tout ça vient de celui qui veut qu'on oublie Israël définitivement. Et c'est possible qu'on devienne ses ennemis. Hélas, ça marche. Même l'antisémitisme gagne des églises, beaucoup d'églises. Même aux États-Unis qui ont été le lieu où on défendait le plus, avec le plus d'acharnement dans les églises évangéliques, le rôle d'Israël, maintenant c'est en train de disparaître. Alors, je dis, un des moyens, c'est dire l'ancienne alliance c'est Israël et la nouvelle c'est l'église. Mais que dit Dieu? Jérémie 30, 31. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Pas avec l'église. Or, c'est ça, la nouvelle alliance. Quelle est-elle? Elle s'exprime par la venue du Christ sur la planète. Mais il fallait d'abord qu'il fasse crucifier. Parce que la nouvelle alliance, Dieu la leur propose à travers le sang et le corps meurtri du Seigneur. À travers la grâce et le pardon de ses péchés. Et Jérémie 31 très clair à ce sujet. Je me souviendrai plus de leur iniquité, je me souviendrai plus de leur péché, je leur pardonnerai. Et ce pardon a été acquis en Jésus-Christ. Et si il fallait un signe, il y a ces mots de Jésus en croix, Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Il l'a dit de qui? De ceux qui étaient là, qui étaient des Juifs, n'est-ce pas? N'oublions pas. D'avance, il leur pardonnait, et les prophètes l'ont dit, Jérémie, Ézéchiel, le pardon leur est acquis. Ils se convertiront et ils seront à son service. C'est à cause de leur incrédulité, leur incrédulité persistante, que le salut, pour venir jusqu'à nous, n'a pas attendu le règne millénial où ils seront les missionnaires pour le monde. C'est à cause du trébuchement. Qui dit ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ben oui. C'est Romains, l'apôtre Paul aux Romains au chapitre 11, un chapitre que vous connaissez bien, je n'en doute pas, qui commence par dire au premier verset, je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Bah, vu qu'il a crucifié le Messie, vu qu'il a été infidèle depuis si longtemps, qu'il en a fait voir de toutes les couleurs à Moïse, à Josué et à tous les juges et à tous ceux qui ont suivi et qui avaient à les conduire, Paul répond, jamais de la vie, megeneto. C'est une expression grecque qui signifie qu'il n'en soit rien, mais qui est tellement forte que personnellement, je crois que ce qui le traite, ce qui le rend le mieux, c'est jamais de la vie. Il n'en est pas question. Dieu n'a pas rejeté son peuple. Et il ajoute au verset 11, cette fois, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? En fait, broncher signifie trébucher, n'est-ce pas? C'est-à-dire comme quand on on touche une pierre et qu'on perd un moment l'équilibre, on trébuche. Et Paul dit, est-ce pour tomber qu'ils ont trébuché? Et il répète, jamais de la vie, loin de là dans nos versions. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Parce qu'Israël a trébuché jusqu'à toucher le sol. Hein. Bon, c'est vrai que le texte grec n'emploie pas le mot tomber. C'est trébucher, c'est bon, et c'est un trébuchement. Mais quand même, c'est un trébuchement qui dure depuis 2000 ans, presque. Mais pourquoi ont-ils trébuché? Eh bien, pour que Dieu, sans attendre qu'ils soient prêts à accomplir le rôle qu'ils n'ont jamais accompli jusqu'à présent, ils n'ont jamais été véritablement ce peuple de rois, de sacrificateurs et de prophètes, pour que, sans attendre qu'ils le deviennent, le salut nous parvienne à nous païens. C'est leur rôle de porter la connaissance de Dieu à toutes les nations de la terre, donc à tous les païens. Mais, sans attendre le moment où enfin convertis, ils l'accompliront, Dieu a permis que les païens soient atteints. Et il a choisi pour cela un apôtre, non pas un des 12, l'apôtre de l'incirconcision, l'apôtre Paul. Et c'est lui qui a commencé ce travail. Mais après avoir donné toute la période du livre des Actes comme patience et comme moment à Israël pour accomplir sa tâche. Il est resté dans l'incrédulité en tant que nation. Mais n'oublions pas quand même qu'il y a eu beaucoup de Juifs convertis, devenus enfants de Dieu. Mais il le sera demain. En attendant, l'accès nous a été ouvert. Je lis tout le texte. Loin de là, mais par leur trébuchement, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Dieu sauve des païens pour dire, mais, et vous, qu'est-ce que vous attendez? Vous, qui êtes le peuple de Dieu, suscitez si possible leur jalousie. Or, si leur chute, leur trébuchement, littéralement, a été la richesse du monde, et leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Comment Dieu va-t-il convertir un peuple qui aujourd'hui est composé de tant de païens et qui se conduit aussi mal que les païens? Il y a, disait déjà Paul, il y a un résidu fidèle, oui, le peuple dans son ensemble, mais il y a un résidu fidèle. Et à la fin des temps, nous savons que ce résidu fidèle, à travers lequel Dieu va faire son travail, enfin, ne sera pas en grand nombre. Zacharie nous apprend que 2/3 seront détruits par les fléaux de la fin des temps. 2/3 du peuple. Et que le tiers restant va passer par le creuset. Et c'est ce qui sera sauvé du creuset qui forme le résidu fidèle et qui, converti par Jésus-Christ à son retour, ira d'abord dans le monde entier ramener les Juifs dispersés à Jérusalem. Et Isaïe nous dit dans son dernier chapitre, comme une offrande à l'Éternel, leurs frères juifs, pour que tous les Juifs épargnés par les jugements deviennent enfin ce pourquoi ils ont été choisis. Valait-il la peine de parler de tout ça? Je crois que si on n'a pas compris, on ne comprend pas vraiment le plan de Dieu, ni pour nous, ni pour eux. Quand Pierre prêche son deuxième grand message rapporté dans l'Écriture, et que l'on trouve en acte 3, il parle aux Juifs de Jérusalem, mais aussi à ceux qui sont venus de la dispersion pour la fête. Que leur dit-il? Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Et il ajoute, afin que vienne les temps de rafraîchissement de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de tous ses prophètes. Jésus ne reviendra établir son royaume que quand ils se seront convertis. Alors, n'attendons pas autre chose. La première chose qui doit se produire, c'est, il est vrai, au moment de son retour, c'est-à-dire au jour de l'Éternel, qui n'est pas un jour de 24 heures, la Bible ne dit pas combien de temps il durera, mais c'est joint. La disposition des Juifs à accueillir Jésus-Christ, leur reconnaissance du Messie quand il vient les délivrer, tout cela précède le royaume. Et nous, qu'attendons-nous? Alors, bien sûr, beaucoup d'entre nous, j'imagine, seront morts, en tout cas, je me doute que je le serai, quand cela se produira. Pourquoi? Parce que il y a des signes qui ne sont pas encore accomplis. L'avènement du Seigneur, c'est de Thessaloniciens 2, et notre réunion avec lui, c'est ce qu'on appelle couramment l'enlèvement de l'Église, mais ce n'est pas un enlèvement. On va à sa rencontre pour faire le reste du trajet avec lui. Pas pour repartir au ciel avec lui, parce que quand il vient pas pour repartir. En tout cas, pas tout de suite. C'est sûr. Bref. Notre prière est liée à son accomplissement et notre espérance est liée, si nous comprenons bien la Bible, est liée à la nation d'Israël. Les Juifs entendant Pierre dire « Hommes frères, que ferons-nous ? » Et s'il s'adressait à nous, il dirait « Hommes frères et femmes, sœurs, bien sûr, ils sont comprises. Que ferons-nous? Repentez-vous. La première chose que nous avons à faire, c'est sûrement nous poser la question, suis-je vraiment en règle avec Dieu? Suis-je vraiment devenu son enfant? Est-ce que je me suis approché de lui avec la confusion de celui qui se reconnaît comme coupable aux yeux de Dieu? Et est-ce que j'ai crié « Pardonne-moi ». Mais ce n'est pas la seule. Il y a la suite, il y a demain. Et là, notre devoir, c'est de prier pour Israël. Il y a des textes bibliques, vous les connaissez, qui nous invitent à prier pour la paix de Jérusalem, pour le peuple d'Israël. Ça devrait être, bon, on ne peut pas dans la pratique le faire facilement, mais ça devrait être notre premier projet missionnaire, parce que à notre tour, sa vocation nous touche. Nous sommes maintenant devenus enfants d'Abraham par la foi. Donc, dans un sens, nous formons avec eux un seul peuple, pas une seule nation, mais un seul peuple, c'est vrai. C'est de prier pour eux et surtout leur permettre de découvrir que nous les aimons pour que ceux qui nous entourent reconnaissent que le chrétien est en fait son frère et son ami. Pas encore le frère dans le sens plein du terme, mais quand il sera venu au Seigneur dans la plénitude du sens. Mon dernier mot. Le triple mandat d'Israël est merveilleux. Moi, sacrificateur, c'est-à-dire priant pour les autres et les portant auprès de Dieu, et prophète, parlant de la part de Dieu. En second lieu, mais tout aussi sûrement, c'est le nôtre. Que Dieu nous aide à le vivre. Et être ainsi déjà pour nous-mêmes ce qu'il sera, ce qu'Israël sera demain, un moyen de Dieu pour sauver les humains. Maranatha. Prions, si vous voulez bien. Nous te bénissons, Seigneur. Tu as fait les bons choix quand tu as choisi Abraham, sa postérité. Et quand tu attends de ce peuple, ce pourquoi tu l'as choisi. Mais d'une autre manière, sans doute, tu nous as aussi choisis. Tu nous as attirés à toi. Nous ne pouvions pas nous sauver par nous-mêmes. Donne-nous, si même ce n'est pas directement notre propre ministère, de devenir entre tes mains des prophètes, des sacrificateurs, et nous te prions vraiment pour ce monde en tant que tel, et des rois, c'est-à-dire capables d'établir à notre échelle, dans notre foyer, là où tu nous donnes de travailler, dans notre église, des gens capables de porter en quelque sorte ta royauté. Nous te demandons ces choses afin que ton nom soit glorifié et que ce règne bientôt vienne. Amen.